19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beur FM.
Un bonsoir, chers amis auditeurs. Bienvenue si vous venez de nous retrouver. Sachez-le, nous sommes ensemble une heure pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Un seul numéro, 01 53 48 3000, ça c'est le vôtre. Vous intervenez, vous commentez l'actualité avec nous. Alors au sommaire, chers amis, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien de vous embarquer avec moi pour parler de plusieurs sujets. D'abord on reviendra sur le déplacement d'Emmanuel Macron qui est arrivé, qui est en ce moment même à Clichy-sous-Bois pour inaugurer, vous savez quoi, un dojo solidaire. On va parler sport, judo. Bref, un véritable bas de foule, il s'est offert, le chef de l'État. Et puis, nous reviendrons sur cette actualité avec le maire de Clichy, M. Olivier Klein, mais également le fondateur du collectif pluriel, Karim Amlal. 19h30, le Quad Neuf, avec le docteur Majid Seoussine et son regard satirique, corrosif, vous le verrez, puisqu'il va parler des législatives. Et puis les débatteurs, un ancien ex-commandant qui est auteur aujourd'hui, metteur en scène, bref, comédien. Il est avec nous sur le plateau, il s'appelle Jean-Pierre Colombiès. Un autre commentateur politique, Gamal Abina, le président de l'association franco-tunisienne, Raïd Chaibi. Et enfin un jeune journaliste qui sera avec nous sur le plateau, Mehdi Jaziri. Et puis vous, au 01 53 48 3000. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous suivre, mais aussi à participer aux informés sur Beur FM. C'est parti, et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Tout de suite, l'invité du jour.
Les informés, l'interview.
Et l'interview, c'est avec le fondateur du collectif pluriel. Bonjour Karim Amlal.
Bonjour Adil, comment ça va?
Mais très bien, plaisir que vous soyez avec nous. Vous êtes par ailleurs aussi l'ambassadeur de la chargée de la Méditerranée. Je m'adresse non pas à l'ambassadeur, puisque vous avez évidemment une réserve là-dessus, de chargée de la Méditerranée, mais plutôt au fondateur du collectif pluriel. Alors, on a vu Emmanuel Macron s'offrir un bain de foule avant d'inaugurer un dojo solidaire, en présence évidemment de personnalités de France Judo, de la fédération aussi des judokas. On a parlé sport, jeunesse. Est-ce que vous en savez un peu plus concernant le déplacement du chef de l'État Emmanuel Macron? Est-ce qu'il est parti chercher des voix? Ou est-ce que il est dans le cadre, évidemment, de sa promesse électorale présidentielle? Que cherche-t-on au juste aujourd'hui? Ce déplacement, quel sens a-t-il, Karim Amlal?
Il a du sens, ce déplacement. On est à quelques jours des législatives. Évidemment, il a un sens d'abord politique, parce que les personnes, les jeunes des quartiers populaires, c'est une part importante de la population française et très chère au président de la République. Il s'est à de nombreuses reprises exprimé sur ces sujets, sur l'égalité des chances, sur l'importance de la diversité dans notre pays, sur le rôle positif des diasporas. Il l'a fait depuis le début de son premier mandat, donc il n'y a pas d'opportunité. Particulier. On est pendant, évidemment, dans une campagne électorale. Donc c'est normal qu'il aille auprès des jeunes des quartiers populaires. Et c'est bien, c'est positif. Donc de ce déplacement, moi j'attends un signal fort qui est envoyé en direction des quartiers.
Qu'est-ce que c'est que ce signal fort? Qu'est-ce que vous appelez comme élément, ce signal fort? Vous attendez quoi?
D'abord, je pense que c'est important que, à 3 jours ou 4 jours du premier tour des législatives, le président de la République se rende à Clichy-sous-Bois. Clichy, c'est une ville qui est importante dans la banlieue parisienne, dans la région parisienne. C'est une ville qui est symbolique, évidemment, pour plein de raisons que nous connaissons tous. Donc, c'est important que le président de la République aille là-bas, se rende à Clichy, à quelques jours du premier tour. Et puis, des signaux forts. Écoutez, vous savez, il s'est exprimé à de nombreuses reprises sur l'égalité des chances, en disant qu'il voulait placer l'éducation au cœur de son nouveau mandat, et au sein de l'éducation, d'ailleurs la nomination de Pape Ndiaye illustre ça, l'égalité des chances doit être un sujet tout à fait moteur. C'est un sujet qui tient au chef de l'État, sur lequel il a eu l'occasion de tenir très récemment des propos très forts, d'ailleurs durant la campagne présidentielle. Donc on sait que l'égalité des chances sera au cœur de son mandat, et c'est important qu'il aille à Clichy-sous-Bois sur le thème de la jeunesse et sur le thème du sport, parce que le sport, et c'est pas un cliché que de le dire, mais c'est vrai que le sport est aussi un moyen de s'en sortir, de sortir des assignations à résidence, et il doit d'ailleurs, je crois, faire une annonce en la matière que nous attendons.
Dites-moi, Karim Amlal, vous, fondateur de Pluriel, vous parlez d'égalité des chances. Je sais que c'est un des sujets qui vous est cher également, que vous avez porté durant l'élection présidentielle. Pour quelle raison? Et d'ailleurs, ça, disons-le clairement, c'est-à-dire que dans les quartiers populaires, ils ne comprennent pas très bien la raison pour laquelle il n'y a pas eu de nomination en direction d'un ministre de la ville. Pour quelle raison? Est-ce que vous en savez un peu plus?
J'en sais pas beaucoup plus, mais vous avez raison de le souligner. C'est vrai que ça manque, et je pense que honnêtement, faudra attendre ce qui se passe après les élections. Mais il n'est pas impossible que ce manque soit comblé. En tout cas, je pense que c'est important qu'il y ait un ministère de la ville, qu'il y ait un ministre ou une ministre de la ville, et surtout que ce sujet pèse politiquement. C'est pour ça que ce déplacement du président de la République est important aujourd'hui à Clichy. Et par-delà les nominations, les annonces, bon, tout ça évidemment a une importance symbolique, mais je crois qu'il faut du fond. Et il faut surtout une politique en faveur des quartiers populaires, une politique en faveur de la diversité sociale, de la mobilité sociale, et une politique en faveur de l'égalité des chances.
Dites-moi, l'égalité des chances, c'est aussi, vous savez, ces habitants des quartiers populaires qui attendent aussi. Vous parliez tout à l'heure, Karim Amlal, de signal fort. Est-ce que ce signal fort, c'est pas aussi plus de représentativité au sein de cet exécutif, au sein de ce gouvernement?
Mais si, c'est tout ça, vous avez raison. D'abord, l'égalité des chances, ça parle plus à beaucoup de monde, mais plus que d'égalité des chances, faut parler d'égalité républicaine. La promesse de la République, c'est que chacun puisse s'en sortir, quel que soit son milieu social, quelle que soit son origine, quelle que soit sa confession. C'est ça la République, c'est pour ça que nous y sommes tous extrêmement attachés. Et cette République, elle doit être représentative de ce qu'est le corps social, mais de ce qu'est la France en fait. Et la France, ça n'est pas un bloc homogène. La France, ce sont des gens comme vous et moi, ce sont des gens, des Français qui viennent d'ailleurs, ce sont des Français qui vivent dans les quartiers populaires et qui doivent être représentés à tous les niveaux de l'État, à tous les niveaux effectivement de l'exécutif. On est en plein dans une campagne législative. Il y a d'ailleurs, il faut le souligner, un certain nom, là je me rends au Blanc-Ménil en ce moment même pour soutenir une des porte-paroles de Pluriel qui s'appelle Lovarinel. Il y a un certain nombre de candidats qui sont issus de la diversité sociale, issus des quartiers populaires.
Jean-François Mbaye qu'on reçoit dans une...
Il faut qu'il y en ait encore plus.
Jean-François Mbaye qu'on reçoit tout de suite après, d'ailleurs, après l'interview.
Excellent, très bien, très bien, très bien. Et vous avez raison, Adil, de le souligner. Je sais que vous faites beaucoup pour ça à Beurre FM et que c'est un de vos combats et c'est un des combats que nous partageons à travers Pluriel. Mais la diversité, ça n'est pas qu'un mot. La diversité, c'est la France d'aujourd'hui. Cette France doit être représentative, et chaque jeune, justement, puisque le président de la République est à Clichy aujourd'hui, chaque jeune de Clichy-sous-Bois doit se sentir représenté. Ça passe par des candidats aux élections législatives, ça passe par des ministres, ça passe par des chefs d'entreprise. Cette diversité, c'est une richesse de notre pays, il faut la valoriser.
Dites-moi, dernière question, Karim Amlal, les élections, c'est dans quelques jours. Les sondages parlent d'une élection au coude à coude avec la majorité présidentielle et la NUP. Vous dites quoi? Vous répondez quoi? Est-ce qu'il y a un risque que, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, finalement, l'emporte?
Je ne sais pas s'il y a un risque. Il faut se méfier des sondages et de ce qu'ils disent, des enquêtes d'opinion, surtout dans un scrutin qui est complexe comme les législatives. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dynamique qu'il faut constater. Les jeux ne sont pas faits. Il faut se battre. Il faut soutenir les candidats, et notamment les candidats qui sont issus de la diversité, qui sont issus des quartiers populaires. Et puis nous verrons. Ce qui est sûr, c'est que honnêtement, c'est pas une révélation, il n'y a pas un très grand intérêt pour cette campagne électorale. Moi, j'espère que les gens vont se mobiliser, notamment dans les quartiers, mais pas seulement, plus généralement. J'espère que les jeunes vont se mobiliser, parce qu'une élection législative, c'est très important. C'est le sort, le destin de notre pays qui va être dessiné à travers cette majorité au Parlement. Et donc, il faut aller voter. On n'a pas tant de voix que ça et tant de moyens de nous exprimer que ça. Le vote est un moyen fondamental. Utilisons-le et faisons entendre notre voix.
Et vous avez raison de le rappeler. Merci à vous, Karim Amlal, d'avoir été avec nous dans Les Informés. Fondateur donc du collectif Pluriel. Nous enchaînons les interviews. Nous allons recevoir un candidat justement issu de la minorité et issu de la représentation justement nationale. Candidat aux élections législatives, deuxième circonscription du Val-de-Marne. Et j'accueille Jean-François Mbaye. Bonsoir Jean-François Mbaye.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct dans Les Informés sur Beurre FM. Vous représentez la deuxième circo du Val-de-Marne. C'est Choisy-le-Roi, Orly et Créteil, me semble-t-il.
Tout à fait, une partie de Créteil, la partie sud-ouest, oui, tout à fait.
Alors justement, pour quelle raison, Jean-François Mbaye, vous avez décidé de, évidemment, vous embarquer dans cette élection? Qu'est-ce qui vous motive encore dans ce mandat, de reconduire le mandat du président de la République?
Non, mais d'abord parce que moi, je suis donc député sortant, et donc c'est toujours un moment très intéressant de débattre sur la place publique, de se rendre sur la place publique, et d'essayer de convaincre avec la pertinence de nos convictions, et j'entendais tout à l'heure votre auditeur précédent parler de la diversité. Oui, il a raison, il faut aussi que la vitrine, parce que vous savez, les banlieues et les quartiers, c'est quand même la première des vitrines de notre société et de la République. Mmh. Et donc il faut aussi que cette vitrine soit représentée, il faut que ces quartiers soient représentés, il faut que ça, finalement, qu'il y ait une assez large représentativité de toutes les composantes de ce pays. Et donc moi, c'est ce qui me motive. Bien évidemment, il y a le fait aussi que je suis député sortant et que donc j'ai un bilan aussi à défendre. Et puis j'ai aussi cette...
Quel est principalement le sujet que vous défendez durant ces 5 dernières années, votre bilan justement?
Moi, si vous voulez, moi, les priorités sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé durant ces 5 années, c'est finalement toutes les questions d'éducation, d'enseignement, de santé, de logement aussi, que je vais continuer à défendre, parce que c'est un peu le trait caractéristique de ma circonscription et du territoire dans lequel je vis. Vous savez, dans mon territoire, on a eu la chance d'avoir... en termes d'éducation, d'avoir la labellisation de 2 cités éducatives. Je rappelle que c'est un dispositif qui permet quand même de décloisonner le monde éducatif et de faire participer un certain nombre d'acteurs autour de l'éducation et qui favorise à désenclaver aussi les territoires. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir en bénéficier, et c'est des sujets qui sont extrêmement importants dans cette circonscription.
Justement, Jean-François Mbaye, vous dites plusieurs choses. D'ailleurs, vous parliez de pouvoir d'achat, on va en parler. Qu'est-ce qui finalement... est-ce que vous portez la même énergie? Est-ce que vous portez le même enthousiasme durant cette candidature? Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux que vous rencontrez dans la deuxième circo? Est-ce que vous parlez de pouvoir d'achat, justement, qui est au cœur de votre action?
Non, mais c'est sûr qu'on a l'envie, elle est décuplée, parce que sinon on ne serait pas retourné au combat. On n'y va pas en n'ayant pas envie ou en n'ayant pas la force des convictions de ce que l'on veut porter. Non, ce que je dis simplement, c'est que on vient de traverser un quinquennat qui a été bousculé par beaucoup de crises, que ce soit des crises démocratiques, la crise sanitaire, etc. C'est installé une crise du pouvoir d'achat, c'est installé une inquiétude autour du pouvoir d'achat qui touche beaucoup de strates. Le pouvoir d'achat, c'est pas uniquement ce que l'on met dans l'assiette ou comment est-ce qu'on arrive à finir nos fins de mois. C'est aussi les questions de logement. C'est aussi comment faire pour payer son logement une fois qu'on a payé ses factures, etc. Donc moi, ce que je leur dis, c'est qu'évidemment, on sera de nouveau, je l'espère, si on a cette majorité au rendez-vous, pour pouvoir continuer à aller beaucoup plus loin et beaucoup plus fort sur l'aide que l'on peut apporter, ou en tout cas le soutien à ces mesures, y compris les mesures du pouvoir d'achat. Il y a des annonces qui ont été faites. Je crois qu'il ne faut pas uniquement s'en satisfaire, parce qu'on peut aller plus loin. Je vais vous donner un exemple. Oui. Je vis dans un territoire où, comme je vous dis, il y a beaucoup de quartiers populaires, il y a beaucoup de quartiers prioritaires de la ville. Moi, je crois qu'il nous faut engager aussi une réflexion sur comment est-ce que l'on va pouvoir soutenir des collectivités comme par exemple la ville d'Orly, qui, au moment de la rentrée en septembre, va devoir faire face à une augmentation du prix des matières premières, du prix des denrées alimentaires, et donc va devoir peut-être répercuter sur un certain nombre de familles les questions de cantines scolaires. Bon, comment est-ce qu'on soutient aussi ces collectivités dans le cadre de cette inflation qui est grandissante? Ça fait aussi partie du pouvoir d'achat, parce que quand vous êtes capable de soutenir la collectivité pour qu'elle ne puisse pas répercuter le prix de la cantine scolaire sur une famille modeste, mais ça fait un peu de pouvoir d'achat aussi à cette famille modeste.
Jean-François Mbaye, justement, député sortant, vous êtes candidat, vous reconduisez votre mandat dans le cadre de cette deuxième circo du Val-de-Marne. Qu'est-ce que vous dites à celles et ceux qui vous écoutent aujourd'hui? On est à quelques jours du premier tour des législatives. Vous leur dites quoi, justement?
D'abord qu'il ne faut pas se tromper, parce que évidemment, on est, et c'est mon cas, face à une adversaire principale qui est l'adversaire de la NUPES, cette alliance qui n'est pas une alliance structurelle, je pense que c'est une alliance conjoncturelle de dupes pour pouvoir bloquer le pays, qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire et qu'il vaut mieux prendre la peine d'observer l'ancrage local des uns et des autres, des adversaires. Moi, ça fait depuis 23 ans que j'habite à Créteil, plutôt que de donner son bulletin de vote à une parachutée qui n'a aucune vision du territoire et qui d'ailleurs elle-même le dit dans des interviews et dans des interviews assez récentes, que ce qui l'intéresse, c'est la vision nationale et le programme de Jean-Luc Mélenchon, et que les députés ne sont pas là pour s'intéresser aux questions territoriales. Moi, je pense que c'est faux, que c'est fondamentalement faux, qu'un député, c'est évidemment quelqu'un qui va porter le projet d'une majorité, mais c'est aussi quelqu'un qui a une vision territoriale, parce qu'il connaît son territoire, parce qu'il y habite et parce qu'il a une vision. Donc, préférons ceux qui ont des visions du territoire plutôt que des parachutés qui sont là depuis quelques semaines et qui essayent de vous faire croire qu'ils peuvent porter vos voix. Et puis, deuxième chose...
Moi, rapidement, mon cher Jean-François Mbaye, effectivement.
Je suis très attaché au cadre de vie de nos concitoyens. Quand je vois la campagne qui est menée par la NUPES, qui soi-disant est pour l'écologie, quand vous voyez le nombre de bâtiments dégradés, le nombre de d'affiches qui sont posées partout et n'importe où, moi je dis aux citoyens, préférez aussi un candidat qui respecte votre cadre de vie plutôt qu'une candidate qui se permet d'afficher un peu partout de manière sauvage et qui n'en a strictement rien à faire de votre cadre de vie.
Grand merci à vous, Jean-François Mbaye. Vous êtes le député sortant et vous êtes également, on l'aura compris, effectivement, les électeurs que vous attendez. Vous leur donnez rendez-vous dimanche prochain dans la deuxième circonscription du Val-de-Marne. Merci, Jean-François Mbaye.
Ils aillent voter. Merci beaucoup à vous.
Merci à vous aussi également. On va marquer cette première page pub. On se retrouve avec Jean-Pierre Colombiès, Gamal Abina, Raed Chaibi. Et enfin, Mehdi Jaziré, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h25. Allez messieurs, tout de suite, nous allons accueillir le face-à-face. C'est parti.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face.
Ah là là, ça les fait rire. Jean-Pierre Colombier, s'il veut, on découde avec le micro, je sais. Bonsoir.
Bonsoir.
Ex-commandant de la police, il est avec nous, il est comédien aujourd'hui.
Dans cette période très très compliquée.
Mehdi Jaziré qui était avec nous hier en direct depuis Paris 19 20e, en immersion chez les toxicomanes, ça va?
C'est ça.
Vous revenez avec des bleus,
ouais,
des hématomes.
Un peu, bon, mais ça va.
Vous êtes en vie.
Je suis là, j'ai pris ma dose avant de venir.
J'ai pris sa dose avant de venir, il a droit à une clochette lui, tiens. Non, mais il croit qu'on est là pour promouvoir. Raed Chaibi, le boss de l'association franco-tunisienne, comment ça va, boss?
Ça va et vous?
Monsieur le président.
Ah, Raed pour vous.
Tu kiffes quand on t'appelle comme ça, je sais. Gamal Abina, le commentateur politique, ça va?
Ça va très bien.
Je vois dans tous les milieux, la médiatique, là.
Ouais, c'est souvent.
Ouais, ça va?
Ils aiment bien les bêtises.
C'est bien dit. Messieurs, tout de suite, on démarre avec ce premier sujet. Refus d'obtempérer. Polémique encore et encore. Jean-Luc Mélenchon qui se vaut dans l'outrance et la caricature. Il se fait tacler par certains. La police tue avec un contrôle routier. Mortel à Paris. La classe politique se déchire entre elles. Évidemment, depuis que la déclaration de Jean-Luc Mélenchon qui embrase la campagne des législatives. Jean-Pierre Colombier, je voudrais vous écouter.
Oui, sujet particulièrement complexe.
Voilà, que vous connaissez en plus.
Oui, que je connais, mais que j'ai traité aussi par ailleurs sous d'autres latitudes, notamment à Marseille où j'ai vu la mort d'une famille entière causée par des gars qui avaient volé des voitures et qui s'amusaient à faire des courses-poursuites et qui avaient pulvérisé toute une famille qui venait à contresens. Donc ce genre d'affaires...
C'était en quelle année?
C'était dans les années 90. C'était fin des années 90.
Ah, ça 90. Vous a
marqué, ça? Oui, c'est l'affaire qui m'a le plus marqué. Parce que quand vous avez en face de vous...
Vous en avez vu en plus des affaires, des glauques, des pas glauques, des ceci.
Tout à
mais
fait.
Mais celle-là vous a marqué?
C'est là marqué parce que j'ai vu des gamins pleurer parce que papa et maman n'étaient plus là. Donc moi, quand on quand j'entends des gens qui font la promotion de ceux qui font ou des rodéos, qui s'amusent à, avec les bagnoles à s'amuser à faire des courses poursuites, ça me donne un peu la nausée.
Est-ce que ça justifie de...
Non, alors justement, on ne parle pas de la même chose.
On parle pas de la même chose.
Donc ce qui s'est passé là récemment, donc ce qui s'est passé sur le Pont-Neuf, ce qui s'est passé avant-hier, il y a deux jours dans le 18e, ce qui s'est passé aussi dans les Hauts-de-Seine, hein, où il y a eu un tir sur un refus d'obtempérer, c'est la conjonction de plusieurs éléments, de plusieurs paramètres sociaux que nous connaissons depuis quelques années. Un, aujourd'hui, on n'hésite plus à démarrer et à s'enfuir dès qu'on fait l'objet d'un contrôle. Je rappelle quand même à notre cher Adil qu'il n'y a pas si longtemps que ça, bien plus proche de nous, deux contrôles qui ont mal tourné ont provoqué la mort d'un cycliste boulevard Raspail à Paris 14e et ont provoqué la mort d'une petite fille au Mans. Ça n'explique pas nécessairement les tirs qui ont eu lieu plus récemment, plus proche de nous. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et ça amène effectivement à se poser la question des conditions de contrôle, c'est évident. Or, là-dessus, on en parlait tous les deux avant la prise d'antenne, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est très récent, hein, le dernier rapport de la Cour des comptes sur la formation de la police qui met le doigt sur toutes les problématiques que connaît l'institution police, et notamment celui de la formation. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on se rend compte qu'à la fois, il y a un désintérêt total, un manque d'attractivité sur le métier de la police. On recrute à 8 de moyenne, il faut le savoir aujourd'hui.
Donc,
Il y a de moins en moins, de conviction, d'envie de faire ce métier.
Ouais.
Et le plus grave de tout ça, quand on a dit ça, c'est qu'il n'y a pas de il y a une très très mauvaise formation continue. Donc, on apprend mal aux gens à se servir de leurs armes. Et les dernières affaires sont révélatrices de ce point de vue-là. Parce que si on peut comprendre, admettre et expliquer qu'on puisse tirer sur quelqu'un qui vous fonce dessus dans l'intention de vous nuire, de vous faire du mal, donc peut-être, probablement, de vous tuer, on peut difficilement expliquer. Par contre, que le passager ou la passagère soit touché par les tirs.
Donc, justement, on va faire un tour de table. Gamal Abina.
Ça explique que, justement, il y a un problème dans l'utilisation de l'arme.
Absolument.
On s'en parle au début. J'ai entendu beaucoup de politiques dire d'énormes bêtises. C'est dégoûtant, mais dégoûtant. Quand Jean-Luc Mélenchon dit la police tue, il a raison. La police tue parce que, malheureusement, en 2017, en février 2017, on a fait une loi unique qui consiste à dire que la légitime défense, le droit de tuer, donc, d'un policier peut quasiment être automatisé. C'est-à-dire qu'il a l'impunité qui est derrière. Et là, il y a une dérive de la loi. Quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il y a 4 morts en 4 mois, il a raison. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit qu'il y a un problème sur cette affaire-là, il faut savoir que la fille qui a accompagné cette jeune fille qui a été assassinée, parce que c'est un assassinat, elle s'appelait cette jeune fille Rania, fille unique de famille d'origine algérienne. La mère est en pleurs. On ne parle même pas de la famille. Tout le monde s'en fout.
On commence à parler de la famille.
Oui,
on commence.
Une fille qui n'a rien fait, qui n'a commis aucun délit.
Qu'un avoir.
Dont le type qui était au volant n'avait pas le permis. Est-ce qu'on a le droit de tuer quelqu'un parce qu'on n'a pas
Tournez bien le micro vers comme ça.
Donc
oui.
Le type qui est au volant n'avait pas le permis. Est-ce qu'on a l'autorisation de tuer quelqu'un parce qu'il n'a pas le permis? Au motif que ces policiers qui sont très mal formés, c'est vrai. Là, on a un ex-policier sur le plateau qui a. Il se trouve qu'il est très formé intellectuellement, il n'y a aucun problème. Mais la plupart de ces recrues qui ont 8 de moyenne sont souvent des frustrés, des types complètement dédiés.
8 de moyenne, nous dit Jean-Pierre Colombier.
Je parle de la plupart des recrues qui agissent mal, je précise. Moi, j'ai eu
récemment. Ne généralisons pas, dit Jean-Pierre.
Il y a 3 jours, 2 jeunes délinquants qui ont emmerdé une fille que je connais, et qui ont bloqué la route. 2 jeunes délinquants, il se trouve qu'ils sont d'origine juive, nord-africaine, mais ce n'est pas important. Les policiers arrivent, ils ne font pas leur travail. Ils ne les ont pas contrôlés et les ont laissés partir. Ça s'appelle de la punité. Par contre, là, on a un type qui, en panique, parce qu'il n'a pas son permis, donc un imbécile, c'est vrai, fonce pour se sauver, pas pour tuer les policiers, pour se sauver. La fille l'a dit ce matin.
Donc le policier n'aurait pas dû tuer.
Donc les policiers, parce que les policiers n'auraient pas dû tuer. Aujourd'hui, il y a un problème. C'est quand vous allez en Angleterre, je fais une distinction parce qu'il faut
aller
à l'étranger. Quand on va en Angleterre, on parle aux policiers, il y a un sourire. Il n'y a pas ce côté méprisant et haineux. Il n'y a pas collègue. Il n'y a pas ce truc dingue. Quand on arrive en Espagne, ils sont durs. La Guardia Civil est dure, mais il y a
quand même un respect.
Très dur. Quand vous allez en Allemagne, en Hollande, tous ces policiers-là sont formés à l'exercice et sont respectés. C'est leur représentant direct.
Et vous voulez dire quoi en France?
Ce que je veux dire, c'est qu'en France, non seulement les policiers sont mal formés, mais en plus, il y a une école de police qui est calamiteuse, qui consiste à dire que quand on voit un bougnoule, j'utilise le terme à dessein parce qu'il se trouve que la fille était algérienne et que tout ce qui était dans la voiture était africain. Quand on voit un bougnoule en face de soi, on l'appelle, et ça, je pense que tu as dû l'entendre, les melons. Ça, c'est ce qui est dit dans la police. On les appelle les melons, les socialistes. Voilà, c'est des termes racistes.
Les melons, ça veut dire le rebeu.
Ça veut dire le rebeu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut poser la bonne question. Quand Madame Le Pen dit, il est normal que ces policiers soient protégés, c'est intolérable. On doit protéger.
C'est le coup de gueule de notre ami.
Il y a une fille qui est
ça vous énerve. Je le sens.
Qui n'a rien à voir avec la délinquance. Et on a commencé à faire des suspicions sur elle. Il y a des gens qui ont été canardés dans une voiture alors qu'ils n'ont pas eu une action de volonté de tuer. C'est ça le problème. C'est la volonté qu'il faut établir. Que des policiers ont bénéficié d'une présomption d'innocence, oui, c'est normal. Mais qu'on en arrive à dire que finalement ce sont des anges et que les autres en face, c'est peut-être des délinquants, on a un vrai problème. C'est pour ça que moi, j'ai une pensée pensée pour la famille de cette jeune fille de 21 ans qui a perdu sa vie dans les circonstances horrible, qui s'est fait tirer dans la tête. Donc, il faut se poser la question de l'attention. Je dis, on ne tire pas par hasard. Quand on est formé à la police, il y a quand même des séances de tir. Donc, je me pose la question de savoir pourquoi.
Mais il y a un débat,
mais le débat est très clair. La police est police. Malheureusement, c'est une police qui enquête sur la police.
Non, mais c'est vrai que là, effectivement.
Sous l'autorité des magistrats, perdez pas de vue.
Non, mais la police est police, fait l'enquête. Elle fait la première enquête, on est d'accord. Les magistrats interviennent en seconde étape. Donc, c'est eux qui font l'enquête. Le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait une indépendance réelle de cette police des polices qui doit être conduite.
Il est énervé. Gamal Abina est énervé.
Faire souvent à des policiers de rue, alors je fais une distinction entre le policier normal, lambda, qui a un cerveau, il n'y a pas de problème, celui qui a à cœur de bien faire son métier, et le dingo, le cow-boy, on le connaît sur les quartiers. Les gens de la BAC sont des cow-boys, je le dis, le répète, la BAC doit être dissoute. Il y en a marre de cette méthode violente à chaque fois d'expression par rapport à la population, et je parle de la population au sens large, je ne parle même pas seulement des gens issus des quartiers, parce que malheureusement, ce qu'on appelle les bavures policières sont légion depuis trop longtemps. Il faut trouver enfin un modus vivendi pour que la police soit respectée et respectée.
Il est énervé, Gamal Abina, aujourd'hui. Bon. Je vais vous interrompre, je vous donne la parole promis. Juste, je veux pas qu'on prenne du retard. Oui, vous avez raison. Vous avez, oui, on va dépassionner. Vous avez, c'est très compliqué. Vous avez raison. Je vais vous redonner la parole. Il y a Raed JB aussi et Mehdi Jaziri. Le Quad 9, c'est parti.
Les informés. Le Quad 9.
Le Quad 9, c'est avec le docteur Majid Seyoussine. Bonsoir, mon cher docteur.
Bonsoir Adil.
Nous sommes en retard et désolé de, évidemment, de ce retard. Nous vous écoutons. Vous allez parler des législatives. C'est parti.
Et je pense que je vais remettre un peu de passion et fâcher notre ami Gamal.
Ah,
écoutez, mon cher Adil, je suis triste.
Triste.
Nous avons eu cette semaine une très mauvaise nouvelle. Manuel Valls a été éliminé, car les Français qui vivent au pays des Ibères et des Lusitaniens n'ont pas voté pour lui comme représentant des Français de l'étranger. Notre ombrageux catalan de l'Essonne, de Rechef, a annoncé la fin de sa carrière politique et a fermé son compte Twitter. Saura-t-il faire comme Lionel Jospin et ne jamais revenir ? Certains parmi vous l'espèrent. Rien n'est moins sûr pourtant. En tout cas, pas grand monde n'a poussé de cri pour le retenir. Personne ne s'est roulé par terre. Personne ne s'est arraché les cheveux. Manuel Valls, vous voyez, c'est le type que l'on adore détester. Et pourtant, un seul être vous manque et le monde est dépeuplé.
Ah, c'est énorme.
Ah, Manuel Valls, je ne te hais point. Toi qui m'as donné si souvent des occasions d'écrire des billets, des posts sur mon blog, tu vas me manquer. Heureusement qu'il nous reste d'autres têtes de Turcs commodes, et je ne parle pas de vous, bien sûr, Adil. À propos de têtes de Turcs, il y en a un qui commence à me donner envie de lui lancer quelques flèches. Notre ami Mélenchon, devant lequel je m'étais respectueusement incliné avec sa performance au premier tour des présidentielles.
Ouais.
Et oui, Adil, j'ai fortement rêvé, je l'avoue, d'un débat Mélenchon-Macron. Mmh. J'avais un peu oublié quand même ses traits paranoïaques, son autosuffisance, sa mauvaise foi. Et aujourd'hui même, si je reconnais ses talents de battleur, je ne peux m'empêcher de tiquer à quelques-uns de ses propos et vous voyez tout de suite à quoi je fais allusion.
Bien sûr.
Qu'en profitant de la dramatique mort de deux jeunes gens abattus par la police dans des circonstances qui restent largement à éclaircir, il déclare, dans une tautologie, « la police tue ». J'avoue que je me crispe un peu. Entendons-nous bien, Adil. Je suis de ceux qui, depuis de nombreuses années, dépensent les contrôles aux faciès, de ceux qui ont protesté contre les bavures policières, ici même d'ailleurs à Beurre FM, où j'ai fait plusieurs billets sur le sujet. Je suis de la génération de Malik Oussekine, car moi j'étais dans la rue en 86 quand vous n'étiez pas encore né à Dille. Et je reconnais que j'ai couru sur le boulevard Saint-Germain en blazer et chaussures en cuir, ce qui mérite quand même qu'on reconnaisse la performance.
Oui.
Mais je dois reconnaître que les gaz lacrymogènes, ça vous donne un élan fou.
Oui.
Quand Mélenchon déclare que la police tue, je ne peux m'empêcher de tiquer, car si des policiers tuent, et ce n'est pas l'ensemble de la police qui tue, et il faut le dire d'autant plus qu'aujourd'hui, la police est vraiment de toutes les couleurs, contrairement à beaucoup de corps de l'État, et depuis très longtemps. Et voyez-vous, Adil, ce qui me gêne au fond, c'est quand même un peu l'impression d'une tentative de manipulation. Je ne peux m'empêcher de croire que, à quelques jours d'un premier tour, il tente de grappiller les voix des quartiers avec ce drame, avec dans son inconscient l'idée que finalement, dans les quartiers populaires, tous ces braves gens ne soient pas des défenseurs de la loi, et qu'en les flattant dans un supposé sens de leur poil, j'aurai leur voix. Alors que vous, comme moi, nous savons, Adil, que la sécurité et la police, c'est dans les quartiers populaires dont on en a le plus besoin.
Oui.
Et on mendie souvent aux pauvres, puisqu'il faut parler de pauvres, ce que l'on offre le plus souvent aux bourgeois. La sécurité des biens et des personnes et la tranquillité publique. Dans les cités, on n'aime pas plus les voyous qu'ailleurs, et le croire est une forme de mépris.
Eh bien, bravo pour ce billet d'humeur, mon cher docteur Majid Soussine. Bravo, bravo. Chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi aux Invalides, chez les militaires et aussi au SAMU. Merci, mon cher docteur. À mercredi avec autant de plaisir.
Avec joie, toujours, mon cher.
Majid, sur un truc, je suis d'accord avec toi. Effectivement, la généralisation, la tautologie en l'occurrence, est outrancière utilisée par Mélenchon, quand il dit la police tue, donc il généralise, c'est une faute de sa part et une faute politique, à mon sens.
Merci mon cher docteur, à très bientôt, à mercredi prochain sans faute. Nous marquons la première, la seconde et dernière pause. Je vous redonne la parole, Jean-Pierre Colombiès, Rayed Chaibi, pardon. Et vous avez raison. Et Mehdi Jaziri, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informer avec Adil Farkan.
Si vous venez de nous rejoindre 01 53 48 3000, vous pouvez intervenir. Jean-Pierre Colombiès est avec nous, Mehdi Jaziri, Rayed Chaibi, enfin Gamal Abina. Jean-Pierre Colombiès, brièvement, je vous laisse répondre à Gamal Abina et ensuite je donne la parole à Rayed Chaibi et à Mehdi Jaziri.
Oui, merci, je ne vais pas monopoliser la parole, il y a d'autres intervenants. Je voudrais juste qu'on dépassionne ça et aussi, bien évidemment, se sentir concerné par le drame d'une famille. Je suis père, comme beaucoup d'entre vous autour de cette table, on ne peut pas ne pas être touché. Maintenant, je dis attention aux postures politiques, attention à ceux qui jouent à gratter les allumettes de poudre.
C'est vrai.
Je dis attention à ça, parce que la situation, elle est sociologiquement explosive. Donc, ne jouerons pas aux apprentis sorciers et aux battleurs de foule. Ça va nous revenir en pleine figure.
Rayed Chaibi, refus d'obtempérer, et puis querelle politique, et puis maintenant, ça dépasse tout le monde, ça y est. Hein.
Pour revenir sur
puisqu'on a différentes versions.
Pour revenir sur le drame en lui-même, c'est terrible qu'une jeune fille de 21 ans perde la vie comme ça. En plus, Gamal le disait tout à l'heure, enfin je l'ai appris de ce que tu disais, qu'elle était fille unique, donc je n'imagine même pas la douleur des familles. Et en tout cas, avoir une pensée pour elle. S'agissant de ce qui s'est passé, déjà, moi dans cette affaire, puisque là pour le coup c'est clairement établi, le conducteur a une énorme responsabilité sur les épaules. Parce que il lui suffisait simplement de s'arrêter, peut-être qu'on n'aurait pas eu ce drame. Mais avec des si, on peut refaire le monde. Donc, j'espère qu'il répondra de ses actes et qu'il sera, je dirais, puni avec l'extrême sévérité. S'agissant de ce qui s'est passé vis-à-vis des policiers,
il y en a une indemne aussi derrière, celle qui était
derrière. Exactement. Et vis-à-vis de ce qui s'est passé, de la balle qu'a reçue la jeune Rayana en pleine tête, là aussi, je pense qu'il faut dépassionner. Il y a une enquête qui est en cours. Il faut regarder. Effectivement, le déroulement des faits, certainement qu'ils vont vouloir explorer, je dirais, une des pistes, à savoir est-ce que la voiture aurait servi comme arme par destination. On verra, l'enquête est en cours. Donc, je pense qu'il faut pas rajouter de l'huile sur le feu et laisser l'enquête suivre son cours. Par rapport à la reprise politique et à la polémique qui s'en est suivie, j'arrive pas à comprendre l'attitude de Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il parle d'une police qui tue. Je pense que la police est une institution républicaine, elle n'a pas vocation à tuer. Je veux dire, volontairement. Elle tue lorsqu'elle est en situation de danger ou lorsque il y a un danger qui est représenté, mais tuer comme ça volontairement, je ne pense pas. Oui, mais là, je parle de ce qui s'est
en
passé.
En tout cas, il a scandalisé beaucoup.
Je parle pas de ce qui s'est passé le 17 ans. Par contre, l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, moi, me désole. Et quand on a vocation comme lui à vouloir absolument être Premier ministre, il en devient Premier sinistre. Parce que quand on a pour objectif d'être chef du gouvernement et de pointer du doigt l'autorité policière, au lieu de, je dirais, de ne pas rentrer dans une affaire en cours absolument vouloir chercher des boucs émissaires ou en tout cas faire monter un peu la sauce à quelques jours d'une élection, c'est irresponsable de sa part.
Irresponsable. On va accueillir un auditeur justement juste après. Mehdi Jaziri, on vous écoute.
Alors moi j'ai le rôle un peu compliqué de dernier à parler parce que du coup beaucoup de choses ont été dites ici. Moi déjà une grosse pensée pour la victime et sa famille forcément, mais je pense que justement vu que l'enquête n'a pas encore été terminée, on peut pas commencer à justement jeter de l'huile sur le feu. En fait, je suis complètement d'accord avec l'idée que j'ai avec Mélenchon en fait à profiter de ça en se disant bon bah il y a un énorme buzz et je vais gratter le buzz. C'est ce qu'il fait depuis le début, même pendant la présidentielle, il faisait ça, c'est pas étonnant. Maintenant, je trouve ça complètement ridicule et grotesque, en fait, même de s'exprimer dessus tout court. Ce qui aurait dû, en fait, être affiché, c'est des messages de soutien pour la famille et pas des la police est dessus, mais non, la police, il faut la protéger. En fait, dans les deux cas, on sait pas ce que la police a réellement fait, finalement. Est-ce que par rapport à la voiture, est-ce que la voiture était destinée à être une arme ou pas? Ça, on le sait pas encore. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'il fallait pas tuer la passagère, ça c'est sûr et certain. C'est une énorme erreur. Maintenant aussi, l'autre sujet qu'il faut ouvrir en débat, c'est aussi de se dire, est-ce que la police, finalement, n'a pas des problèmes à l'intérieur? Quels sont les problèmes de la police? Parce que c'est bien beau de se dire, oui, mais les policiers tuent ceci, cela, d'accord. Mais là, on survole, en fait, finalement. Il faut qu'on rentre vraiment dans le sujet, dans le profond du sujet. Qu'est-ce qui se passe?
C'est ce que dit Jean-Pierre Colombiès.
La question de la formation des policiers doit être clairement posée dans ce genre de situation et dans le maintien de l'ordre.
La situation à l'intérieur...
Elle est ridicule. Catastrophique.
C'est dégueulasse. Et moi, je vais vous dire quelque chose. On travaille tous à côté. On n'est pas des batteurs professionnels, on a tous des travaux à côté. Mmh. Si on va au travail et que tout est sale, que tout se passe mal, qu'on a une situation de merde, sur le terrain, je peux vous dire qu'on
ça
va
rejaillit.
Pas travailler. Donc en fait, moi, je décide à tous les policiers, ces policiers-là, s'ils ont vraiment tué volontairement et qu'il n'y a pas eu d'autre chose, il faut les arrêter, il faut leur enlever le c'est des tueurs, en fait, finalement, c'est bien pas des policiers. Maintenant,
il nous reste très peu de temps, les amis.
Vraiment voir
Gamal Abina. Gamal Abina. Il nous reste très peu de temps et j'ai un auditeur, j'aimerais bien qu'il passe quand même.
Il ne faut pas passer à côté de l'essentiel. Je pense qu'on rate à côté de l'essentiel. Si vous grattez la tête et que le policier pense que vous avez une arme derrière la tête, il va vous tirer dessus. Si vous sortez un portable, il faut quand même réfléchir deux minutes. Ils ont tiré à de nombreuses reprises, dont une personne, le conducteur a pris une balle dans le bus, apparemment il va s'en
thorax,
sortir peut-être,
ouais. Thorax,
et la fille dans la tête. Donc déjà, quand on tire une balle dans la tête, et là je parle d'ancien policier, on sait ce que ça veut dire, c'est pas un tir au hasard. Mais surtout, il faut quand même se poser la question.
En l'occurrence, probablement.
C'était le Rafale qui était fait. Mais ce que je veux dire.
De logistique, de.
Non, je parle de.
L'enquête
sera faite, mais une chose est certaine. Une chose est certaine.
Qu'il est visé.
Quel que soit ce qui s'est passé, une chose est certaine, les policiers n'ont pas été blessés. Moi, ce que j'interroge dans cette histoire, c'est. À partir de quel moment la légitime défense est autorisée?
C'est pour ça.
Et c'est là, juste pour finir mon propos, c'est là. Non, mais justement, les policiers n'ont pas été blessés. L'arme par destination, c'est quand on leur rentre dedans. C'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a tenté de s'enfuir. Donc à partir du moment où il a refusé de s'arrêter, on lui a tiré.
Direction le standard, messieurs. Je vais accueillir Kayan de Paris. Bonsoir, Kayan.
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir, Kayan.
J'appelle par rapport également par rapport à ce sujet, parce que moi je trouve que là honnêtement les propos qui ont été tenus en disant la police elle tue, le policier ceci, le policier cela, je pense pas honnêtement que là les 3 ou 4 policiers qui étaient dans l'équipage qui sont impliqués dans cette affaire, je pense pas que le matin quand ils se sont levés ils se sont dit tiens chouette aujourd'hui on va essayer d'aller tuer quelqu'un. Mmh. Ils ont eu une situation difficile, ils ont fait usage de leur arme et ça. Et c'est à la justice de faire son travail. On va la laisser qui.
Vous êtes vous-même policier?
Effectivement, je suis tout à fait.
J'ai capté.
Bah oui,
le journaliste que je suis a capté. Non, mais j'ai capté. J'ai fait mon boulot.
Je vais même aller plus loin. Je suis policier et je suis un policier. Et j'ai des origines étrangères. Et c'est pas pour autant que déjà la police.
Merci de le rappeler. Non, vous avez raison.
Je vous pose la question.
Vous auriez tiré?
Honnêtement, je n'en sais rien parce que je n'y étais pas et j'étais pas face à cette situation et donc je peux pas et c'est facile.
Vous écoutez par les policiers, vous avez
est-ce
vu?
Est-ce qu'ils ne pouvaient pas tirer dans les pneus du véhicule pour le stopper?
Ça c'est Gamal Abina qui vous pose la question.
Est-ce qu'on pouvait pas tirer dans le véhicule? Oui,
d'abord, je vais répondre. Première question, je peux pas là quand je vous parle actuellement,
moi, se sent se soutenir là tout d'un coup.
J'étais pas dans cette situation, donc je peux pas, je n'ai pas vécu la situation, donc je peux pas apporter de jugement. Tout comme vous êtes dans des bureaux de radio, vous n'avez pas vécu cette situation. Personne ne peut pas.
On m'a braqué.
Personne ne peut dire maintenant.
Le policier Cayenne, pour une fois. Attendez, on est écouté par des policiers. C'est génial. Moi, je veux les écouter. Justement, Cayenne, on vous écoute.
Voilà. Maintenant, dire, on aurait dû tirer. Ils auraient dû tirer dans les pneus ou ceci ou cela. Ça, c'est dans les films hollywoodiens. Les gars, ils ont eu quelques secondes pour réfléchir, réagir et du coup faire stopper une situation. Je ne pense pas qu'ils ont fait usage de leur arme. Je ne pense pas que c'était dans le but de malheureusement tuer une personne ou lui donner la mort ou la blesser avec ensuite les blessures entraînant une mort. Ouais. Je pense que c'était surtout pour faire stopper une situation.
Ouais.
Ensuite, d'ailleurs, la personne, j'ai oublié son nom et donc je veux pas me tromper dans son nom, mais
Rihanna.
Je trouve que entre nous, mettre en avant les origines des personnes dans la voiture, je trouve ça ridicule, à part éventuellement attiser une petite haine ou.
C'est ce que disait Jean-Pierre.
Pas d'accord avec
c'est ce que disait Jean-Pierre.
C'est vrai que c'est connu.
Parce que comment
il y a pas, non mais ce qui est incroyable,
Gamal Abidine, le débatteur, vous pose une question. Doucement.
Il y a un dérapage qui est constaté puisque
ne l'agressons pas.
Qui sont les sorties, elle a dit ils ont tiré trop vite, je n'ai pas compris pourquoi. Il faut être très clair. Il y a des salauds dans tous les corps de métier, dans le mien aussi, dans tous les corps. Il y a des pourris partout. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de racisme dans la police. Il y a du racisme partout parce que c'est malheureusement un mal qui touche tous les corps de métier et ces gens-là peuvent être racistes. Ils peuvent ne pas l'être, mais peuvent l'être aussi, il faut pas l'écarter.
Mais c'est comme partout, tout comme vous, je pourrais très bien dire que peut-être vous êtes un antifique ou vous ne l'êtes pas.
Je ne sais pas.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, de dire ça, ensuite remettre en avant des origines, c'est juste des Français, hein. Remettre des origines,
Kayane, il est français d'origine
maghrébine.
Turc ou maghrébin, je ne sais pas ce qu'il est.
Quand on voit un arabe dans la police, quand il voit un arabe, il a plus de chances d'être contrôlé qu'un européen. Faut arrêter de délirer.
Mais c'est pas pour ça qu'ils l'ont contrôlé. Ils l'ont contrôlé parce qu'ils vous refusaient de s'arrêter. Ils l'ont pas contrôlé.
On parle des conséquences après. On parle pas du.
Vous savez, Kayane.
Est-ce que justement la question est très simple, Kayane? Est-ce qu'on arrête plus facilement les gens qui sont des quartiers? C'est-à-dire au faciès, voilà, arabe, noir. Je vous pose cache la question. Est-ce qu'il y a. Voilà, vous contrôlez beaucoup plus cette population.
Je vais vous répondre avec toute honnêteté. On arrête les personnes et c'est simple. On est dans un pays où on a des lois. Et ces lois-là ne nous permettent pas, et heureusement d'ailleurs, de faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que quand une personne est contrôlée, c'est qu'il y a un motif légal.
Ah bon ?
Et très peu de gens. Très peu de gens le savent. On peut entendre, par exemple, parce que vous êtes citoyen et c'est normal, vous baladez dans la rue, vous ne savez pas. Peut-être qu'un jour il y a un appel radio en disant voilà, il vient d'y avoir une personne qui a été victime, admettons, d'un vol de sac à l'arraché. Sa description, c'est un individu de type X ou Y vêtu de telle ou telle manière. Et bien, si on patrouille et on voit une personne qui correspond à ce descriptif, on va le contrôler.
Très bien, donc les contrôles
Kayane, merci infiniment d'être intervenu. Vous avez eu raison d'ailleurs, parce qu'effectivement, ça nous permet d'avoir un point de vue d'un policier. Collègue
issu de la diversité.
Ah ouais. Parce qu'il s'est senti. Attendez, mais issu de la diversité, c'est pas grave. Et alors
c'est pas mal. Ben,
c'est issu de. On va rentrer dans ce. Non, attendez. Kayane, merci infiniment à vous. Merci infiniment à vous d'être intervenu. Voilà, votre témoignage était précieux. Jean-Pierre Colombiès ne s'est pas senti seul, justement.
Attends, Adil, je veux quand même rajouter.
Merci, Kayane. Je vous libère.
On ne répond pas au contrôle aléatoire. C'est ça dont on parle. Les contrôles aléatoires.
Eh bien, laissez-le répondre. Rapidement, Jean-Pierre.
Ce qu'il a dit est l'exacte vérité. C'est-à-dire que 80% des contrôles, 90% des contrôles sont le fait de signalements post-agression. Après, pour le reste, quand vous avez une politique migratoire... Quand vous avez une politique migratoire fixée par les politiques qu'on épargne gentiment dans le cadre de ce débat, hein, quand vous avez une politique migratoire...
Allez, je rends l'antenne.
On vous impose de contrôler qui? Des Suédois?
Merci à vous, messieurs. Bilal Nedman, de 20h à 21h. C'est tout de suite. C'est maintenant avec Sky Sport. À demain, avec autant de plaisir, on ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli...